Deuxième partie, illumination. L'illumination est un événement grandiose dans la vie de l'être humain. Elle change complètement sa perception de la réalité immédiate. Sa nature est définie comme un éveil, car celui qui accède à l'état d'illumination comprend et perçoit que jusqu'alors, il était profondément endormi. Donner le jour. Dans le langage courant, nous décrivons une nouvelle naissance par l'expression « donner le jour ». Le nouvel être, en gestation dans l'obscurité et la sécurité de l'utérus maternel, doit traverser un étroit tunnel pour accéder au monde de la lumière. En sortant, il respire. Il entre en contact avec l'air. Dans l'atmosphère de notre planète, toutes les matières premières nécessaires à la vie sont présentes. L'hydrogène, l'azote, l'oxygène et le carbone. Sans air, nous ne pourrions pas vivre. C'est le thème de la partie que nous abordons ici, la naissance ou la renaissance de l'homme âme-esprit. L'illumination peut également se décrire comme un éveil, ouvrir les yeux et voir. La grande expérience du prince Gautama, le Bouddha, sous les branches de l'arbre Bodhi, est décrite par lui comme un éveil. Quand quelqu'un se réveille, tout ce qui a été vécu dans le monde des rêves est comme masqué par un net sentiment d'irréalité, et la plupart du temps, ne peut être mise en relation avec la vie diurne. De même, quand une personne vit cet éveil, tout ce qu'elle vit à partir de ce moment-là n'a plus de lien direct avec ce qu'elle vivait pendant son sommeil. Nous reviendrons donc sur ce point important. Cette illumination est également décrite dans un événement concernant Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons au chapitre 17, 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et là, il transfigura devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Une nuée lumineuse les entoura, et de la nuée sortit une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Nous voyons ici l'une des nombreuses descriptions de l'illumination. Ce qui est curieux dans cette citation, c'est que cette illumination est définie comme une transfiguration, mot latin utilisé pour traduire le mot grec « métamorphosis ». L'illumination n'est pas seulement un changement d'état de conscience, mais également un changement de forme. Quelque chose change notablement dans la structure psychique de l'être humain, comme dans toutes les questions relatives à sa capacité de percevoir la réalité. Les circuits cérébraux sont comme actualisés. Pour utiliser un langage familier, c'est comme si un reset se produisait, une restauration, une réinitialisation effaçant les chaînes d'images et de séquences erronées et que la configuration originale était rétablie. Celui qui vit cet événement voit maintenant les choses sous une autre lumière. Les cavités cérébrales sont baignées par une lumière intense qui expulse toute ombre et toute obscurité. Et à cet instant, il connaît la vérité. Il sait qu'il est le fils de l'unique, et de ce fait, il retrouve sa véritable identité. À partir de cet événement, Bouddha reçoit le nom de Tathagata, celui qui a tout laissé derrière lui. Et il dit, de tous les phénomènes qui surgissent d'une cause, Tathagata a révélé leur cause. Cette illumination, ce premier contact fondamental avec le plan d'existence nirvanique, est exactement la même chose que l'irruption dans le monde des causes, de toutes les causes qui engendrent tous les phénomènes qui se produisent autour de nous, incluant notre propre existence et ses formes, corps et composés. Il importe de ne pas confondre savoir et connaître. Par exemple, vous savez qu'en ce moment, vous êtes en train d'écouter cet exposé. Mais nous pouvons affirmer avec une totale certitude que très probablement, personne ne connaît la véritable cause qui motive cette écoute. Ne serait-il pas au minimum nécessaire de connaître soi-même, en vérité, les raisons pour lesquelles nous faisons les choses que nous faisons? Or, pour cela, il faut avoir obtenu l'accès au monde des causes. Le monde extérieur, tout ce que nous voyons et captons à l'aide de nos sens, toutes nos spéculations et tout ce que nous déduisons à partir de nos expériences du monde extérieur, tout cela appartient au monde des effets. En fait également partie ce que nous définissons comme causes, qui ne sont que des effets d'autres effets, encore plus profonds et imperceptibles. Pour connaître les causes véritables, il faut disposer d'une nouvelle conscience, supérieure, différente. Cette conscience se meut dans une dimension supérieure à la conscience ordinaire. Notre conscience a comme référence les trois dimensions spatiales, largeur, longueur, hauteur, et la dimension temporelle de l'avant, du maintenant et de l'après. Mais la nouvelle conscience se meut, en outre, dans une dimension que nous pourrions définir comme celle de la profondeur. Elle peut pénétrer profondément dans toutes les dimensions connues, comme si elle le faisait à travers une dimension perpendiculaire à chacune d'elles. Le fait même que notre conscience ordinaire n'est pas capable de se former une idée ou une image de cette autre dimension est la preuve la plus évidente que celle-ci n'est pas une conscience supérieure et illuminée. Et de ce fait, elle est incapable d'entrer dans le monde des causes. De même que pour capter visuellement les trois dimensions de l'espace, nous avons besoin des deux yeux, pour capter cette quatrième dimension, en réalité la cinquième, nous avons besoin d'un troisième œil. C'est précisément ce troisième œil qui s'ouvre avec l'illumination. Et son visage resplendit comme le soleil, écrit Matthieu dans son évangile, quand il parle de l'illumination de Jésus. Une nouvelle lumière émane du visage de l'illuminé. Cette lumière a son foyer sur le front, plus précisément derrière l'os frontal, et à son point de contact au niveau de l'hypophyse. Les conséquences anatomiques de tout cela sont impressionnantes. Elles dépassent cependant le cadre de cet ouvrage. Néanmoins, nous pouvons déduire facilement ce qui suit. L'hypophyse est une glande à sécrétion interne cardinale, dont la pinéale serait la reine. Il n'y a pratiquement aucune hormone produite dans notre corps qui ne soit sous la dépendance de l'hypophyse. Une part importante de notre caractère s'explique par le fonctionnement de cette glande. Nos états d'âme, notre sexualité, une grande part de notre sensibilité et de notre disposition sont directement reliés à l'activité de l'hypophyse. Nous en déduisons que l'illumination change complètement ses dispositions et les place sur une octave supérieure. Une nouvelle énergie et une nouvelle attitude devant la vie en émanent. Non comme quelque chose de prémédité, programmé, assujetti à une méthode ou à une discipline, mais comme un état d'être spontané. La raison, libre de tous les conditionnements biologiques, fait l'expérience pour la première fois de sa vie et de ce qu'est penser en vérité. Et pourtant, ce n'est pas la fin du processus, ce n'est pas le but ultime. En outre, la manière d'arriver à cette illumination n'est pas non plus indifférente. Approfondissons maintenant ces deux dernières affirmations en commençant par la deuxième. Comment s'est produite l'illumination? L'illumination est le résultat d'une plénitude d'expérience. L'illumination est le résultat d'une plénitude d'expérience. Comme vous le savez, l'un des piliers philosophiques de la Rose-Croix est l'enseignement de la transmigration des âmes ou la réincarnation. C'est l'être divin latent qui se réincarne dans l'être humain biologique. Au cours des innombrables immersions de ce que nous nommons microcosme dans le monde de la vie physique, une accumulation de connaissances et de résultats d'expérience se constitue dans son champ vital, qui constitue un héritage d'intelligence pour chaque nouvelle âme humaine naissant à la vie naturelle dans ce microcosme. Naturellement, chaque âme est libre, au moment d'assumer ou non cet héritage, de l'utiliser dans un sens ou dans un autre. Ce qui est sûr pour nous, c'est qu'il y a des microcosmes qui ont une grande maturité, avec une certaine saturation d'expérience. Et il arrive facilement qu'un microcosme de ce type héberge et sollicite activement une personnalité comme la nôtre. À un moment psychologique, une irruption consciente se produit spontanément dans le monde des causes, avec l'expérience lumineuse qui en découle. Cette merveilleuse expérience a une valeur énorme, mais elle n'a pas été le résultat d'un processus d'initiation. Peut-être direz-vous, et quelle importance ? L'important est l'expérience en soi. Un simple exemple sera ici utile. Imaginez qu'aujourd'hui vous dormiez tranquillement dans le lit de votre maison et que très tôt le matin, au réveil, vous trouviez sur un lit de paille dans le village d'une tribu perdue dans la forêt amazonienne, qu'avant de dormir vous désiriez ardemment connaître. Et comparez cette expérience, car au fond nous parlons d'expérience, n'est-ce pas, avec celle de quelqu'un qui a eu le même désir que vous, qui s'est préparé pendant des années à cela, qui a appris le dialecte, les coutumes, qui s'est familiarisé avec l'environnement et la façon de comprendre la vie de cette même tribu, et a enfin entrepris un voyage vers ce village en passant par différentes phases d'acclimatation et de préparation. L'expérience de se réveiller au milieu de la tribu est la même pour les deux, mais les conséquences et les possibilités qui en découlent sont radicalement différentes. Nous avons choisi cet exemple un peu étrange pour notre thème, parce que nous devions trouver une image qui représente une situation absolument inhabituelle, qui contient un élément de danger et exige une préparation autant psychique que psychologique. Il est évident que la vie dans le monde de l'âme et ses habitants n'ont rien à voir avec la forêt amazonienne et sa population, mais vous comprendrez clairement la pertinence de l'exemple choisi. Si nous lisons les récits des nombreuses personnes qui ont eu une expérience avec la lumière, nous verrons clairement la réalité historique démontrer que ces personnes, ayant accédé à l'illumination sans une préparation accomplie tout au long d'un processus d'initiation et de purification préalable, décrivent leur expérience en utilisant les images de leur propre religion. Si c'est un hindou qui fait cette expérience, toute sa description aura Krishna pour référence, accompagnée des références et des images propres à la culture hindoue. Si c'est un chrétien qui fait cette expérience, Jésus-Christ aura inévitablement un rôle prépondérant. Mais un agnostique peut aussi avoir cette expérience. Dans ce cas, il parlera de champs énergétiques et de sphères planétaires, par exemple. En conséquence, nous pouvons affirmer que le processus de l'initiation dote le candidat d'un bagage rationnel et imagé très précis qui lui permet d'interpréter ses expériences dans la lumière d'une manière très authentique et universelle. Cela lui permet de faire un usage très profitable des immenses possibilités que lui octroie l'illumination. Alors que celui qui n'est pas passé par ce processus d'initiation a d'énormes difficultés à dépasser l'étape contemplative de tout cela. Non préparé, il ne peut que s'absorber sans fin dans cette lumière. Abordons à présent l'affirmation que nous avions posée précédemment. Puisque l'illumination n'est pas le but, puisque le but véritable est la libération, Il n'est pas suffisant de faire l'expérience de vivre de la lumière et dans la lumière. La libération dépend donc totalement de ce que l'illuminé va faire dans la nouvelle situation. Comme nous l'avons dit, la libération est le passage à l'état adulte et mûr de l'âme humaine, unie à l'esprit. Or, vous savez par expérience que tous ceux qui arrivent à l'état d'adulte dans la vie ordinaire ne sont pas nécessairement des êtres libres. Le nombre d'années ne suffit pas pour cela. Il manque une activité auto-créatrice très intense. Aussi, comme nous l'exposions dans notre partie précédente sur la méthode d'initiation, son processus est très important et même essentiel en vertu du but final qui couronne le processus de l'évolution humaine.